don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲南家
都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet et Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. On poursuit notre série consacrée aux mers et aux océans, à la recherche de la puissance, et ce matin on va s'intéresser au commerce maritime. Un cargo à la mer dominait le commerce mondial.
Je vois très bien l'étrave. Je devine les lettres CM, CGM, mon côté.
C'est impressionnant. Hein. C'est, on dirait, je sais pas, un immeuble. C'est énorme, énorme.
C'est des bateaux qu'on met du temps à arrêter, qui vont mettre plus de temps à accélérer. Il faut tout anticiper, en fait, en fonction de l'inertie du bateau.
On va arriver à une centaine de tonnes par jour, ce qui va représenter, ça nous permet de faire à peu près 800 km.
Le groupe CM, CGM poursuivra son développement en France, sur toutes les mers et tous les continents, avec le même engagement responsable pour le meilleur rayonnement de notre pays, la France.
Le transport maritime doit chaque fois savoir se renouveler. Le Bougainville concrétise un génie industriel, mais aussi un travail. Et c'est cette conjugaison qui nous permet d'ouvrir de nouvelles routes à travers le monde et d'être exemplaire à bien des niveaux, notamment technologiques, environnementaux et économiques.
Le CMA-CGM Bougainville, mis à flot le 25 août 2015, 398 mètres, pouvant contenir 17 722 conteneurs, le plus gros porte-conteneurs au monde battant pavillon français. Une vitesse de croisière de 20 nœuds, assurant la ligne reliant l'Europe à l'Asie du Sud-Est. Inauguré en octobre dernier au Havre, il avait fait la fierté notamment du président de la République française qu'on entendait. Le transport maritime est le premier mode de transport de marchandises. Il assure plus de 90% des échanges mondiaux, ce qui en fait l'un des principaux, sinon le principal moteur de la mondialisation. Longtemps, la première puissance maritime mondiale, l'Europe, connaît aujourd'hui des difficultés malgré les belles performances de certains de ses membres, la Grèce, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne. Si les armateurs européens spécialisés dans le transport de conteneurs demeurent en première position avec 53% du marché, le continent asiatique est en train de les rattraper. Alors comment le commerce maritime se porte-t-il? Comment les échanges mondiaux ont-ils évolué ces derniers mois? Et que nous disent-ils de la santé économique du monde? Comment la crise économique recompose le paysage du transport maritime? Mais surtout, quelles sont les stratégies des différents pays pour imposer leur puissance économique dans le commerce maritime, en particulier dans le contexte de crise économique? Est-ce qu'il faut acheter de nouveaux navires, à l'instar de Costco, China Merchants Group et ICBC Financial Leasing, qui viennent de passer une commande de 30 navires géants pour 2,5 milliards de dollars? Est-ce qu'il faut investir dans les infrastructures portuaires ou carrément racheter ses concurrents, comme l'a fait récemment la compagnie d'affrètement marseillaise CMA-CGM, qui vient de racheter son concurrent singapourien Neptune Orient Lines, le 12e du secteur, pour 2,4 milliards de dollars. Nous parlerons ce matin également de la Grèce, un pays qui reste une puissance maritime majeure malgré ses difficultés économiques et malgré le rachat de la concession du port du Pirée par les Chinois. On retrouvera l'un des plus importants armateurs de Grèce, Nikos Vernikos. Et puis nous évoquerons le cas de l'Inde également. Le Premier ministre indien veut appuyer la future croissance de son pays sur le développement de ses infrastructures portuaires. Comment compte-t-il s'y prendre? On essaiera de le comprendre tout à l'heure avec Salima Nekrouf. Mais pour évoquer donc toutes ces questions, cette question de commerce maritime, c'est Paul Touret qu'on a invité ce matin. Bonjour Paul Touret.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex. Vous êtes directeur de l'ISEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. L'ISEMAR qui publie chaque année avec l'hebdomadaire Le Marin un ouvrage sur l'économie maritime qui est excellent pour avoir un peu les grands enjeux de ce secteur, avec Enjeux maritimes 2016. D'abord, peut-être un mot sur cette course aux géants, Paul Touret, au gigantisme, à l'instar donc de ce Bougainville, le plus grand porte-conteneurs exploité par la compagnie française CMA-CGM, inauguré en octobre dernier, avec, je le disais, ses 398 mètres de long, cette capacité quasiment de 18 000 EVP, c'est-à-dire équivalent 20 pieds. Ces derniers mois, c'est vrai, quand on regarde un peu la liste des navires qu'on a mis à l'eau, on voit que beaucoup ont des capacités entre 18 000 et 20 000 EVP. Est-ce qu'il y a une limite à ce gigantisme, ou est-ce qu'il va y avoir un moment où quand même cette tendance à fabriquer des porte-conteneurs toujours plus grands ne sera plus économiquement viable?
Pour l'instant, on estime qu'on est un peu dans la jumboisation des navires anciens. On est en train de porter le format au maximum parce qu'on commence à rencontrer un peu des contraintes portuaires qu'on peut comprendre. À peu près 400 mètres, ça reste faisable dans la plupart des ports. D'abord pour aligner les navires le long des quais, mais aussi pour les faire pivoter sur eux-mêmes, pour utiliser les chenaux maritimes ou portuaires. Donc on pense qu'on est plutôt au gabarit maximum en termes de navires. Maintenant, les croissances de capacité sont essentiellement une optimisation du nombre de conteneurs à bord. On le voit aussi d'ailleurs pour les paquebots ou pour des navires vraquiers, minéraliers qui sont à peu près dans les mêmes formats. On arrive à peu près à un gabarit standard de géants, mais bon, souvent l'expert est contredit par la réalité. Donc ouais. Je vous dis que c'est la réalité du printemps 2016.
Bon. Alors, quand on regarde la flotte mondiale, on voit qu'on est à 20 millions de VP, d'équivalent 20 pieds. Donc, c'est grand conteneur. On a multiplié nos capacités par 2 en moins de 10 ans. La question que je me pose, Paul Touret, c'est est-ce que ça correspond aux besoins mondiaux ou est-ce que on peut s'attendre à ce que la croissance se poursuive et qu'on arrive à une flotte encore plus importante ou est-ce qu'au contraire, on est en surcapacité?
On est actuellement dans un phénomène que tout le monde peut comprendre. En gros, l'économie du transport est au petit trot et la capacité, le nombre de navires mis à disposition par le marché avance au galop. Donc, on est dans une espèce de crise qui est tout à fait inconnue pour la plupart des acteurs, même des acteurs économiques de grand public comme encore plus du grand public. On est dans une crise de surcapacité qui ne se voit pas, qui demande des réajustements propres à une industrie. C'est une des particularités du transport maritime, d'être dans cette situation d'une crise assez grave et d'un autre côté très méconnu.
Quelles conséquences concrètement ?
Pour dire franchement, des morts économiques qui en arrivent petit à petit. Le transport maritime étant un monde très libéral, il colle très bien au darwinisme économique qu'on peut voir dans certains secteurs, mais c'est un peu plus lent parce que de temps en temps, d'abord la solidarité des différents acteurs maritimes fait qu'on n'a pas forcément intérêt à des faillites trop rapides. Les banques soutiennent souvent les armateurs et puis on le voit aussi dans le cas de certains États. Et on peut parler par exemple de Singapour qui a mis du temps avant de lâcher son armement national et qui l'a fait, comme vous l'avez évoqué, avec la reprise par CMA-CGM au cours de l'année.
On en reparlera bien sûr. Vous nous parlez de crise. En même temps, il y a quelques semaines, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a publié ses chiffres pour le commerce mondial. Commerce maritime a progressé de 3,4% en 2014, atteignant un niveau record, 9,84 milliards de tonnes. C'est quand même le signe d'une reprise de l'économie mondiale. Ou est-ce qu'il faut nuancer les choses ?
Alors, il faut nuancer parce que notre monde, d'abord, il est un peu erratique. L'évolution économique depuis 2008, on l'a vu, par exemple, avec la crise européenne après 2011. Maintenant, on parle du ralentissement chinois. Donc, tous ces phénomènes économiques sont beaucoup plus compliqués qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on était essentiellement dans des phénomènes pratiquement de crise et de reprise cyclique de l'Occident, avec un Japon qui faisait partie du monde occidental, donc les États-Unis, l'Europe et le Japon. Aujourd'hui, on est dans un monde à 5 ou 6 ou 7 poules économiques à l'échelle de la planète. La Chine, le Japon, la Corée, l'Asie du Sud, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Et tout ça fait que les phénomènes économiques sont beaucoup plus compliqués. Et derrière ces 2, 3, 4, 5% de croissance annuelle, on a des phénomènes de crise ou de reprise qui sont un peu différentiels.
Et oui, parce que si pendant longtemps, par exemple, pardon de vous couper, mais si pendant longtemps, c'est vrai que les principaux échanges se faisaient selon un axe est-ouest, en gros, dorénavant, on voit aussi qu'il y a des nouveaux axes qui se développent, et notamment entre les différents émergents. On a des axes sud-sud qui sont en train de gagner des parts de marché.
Exactement. Par exemple, nous, on parle toujours de l'importation des produits chinois, mais de l'autre côté, il y a les importations massives de grands pondéreux, des minerais, le pétrole, le gaz vers la Chine. Et le ralentissement chinois a des conséquences avec moins d'imports vers la Chine. Donc moins d'exports depuis des pays producteurs qui eux-mêmes, nourrissant une nouvelle classe, des classes bourgeoises ou des classes émergentes, selon le vocabulaire qu'on veut bien employer, qui sont consommatrices de produits manufacturés made in China ou made in Europe. Et donc, ouais, un espèce de serpent qui se mord la queue de l'économie globale, dont on est en train de voir progressivement les marques. Donc la globalisation... C'est un monde global, mais c'est un monde complexe parce qu'il joue sur beaucoup de touches en même temps. Et comme je dis parfois à mes étudiants, on est comme dans un grand piano. Il y a quelques années, on avait un xylophone relativement simple. Maintenant, on a un piano avec plein de touches. Et régulièrement, on a des touches désaccordées qui ont des conséquences sur d'autres touches. L'image est un peu complexe, mais à l'échelle du transport maritime et de l'économie globale.
Oui, parce qu'on parle de progression, on dit que cette progression, elle varie selon les zones et les régions du monde, ce qui est vrai. Mais vous parliez de pétrole à l'instant, ça varie aussi selon les marchés, selon si on parle de conteneurs, de pétrole, de charbon. Tous les secteurs ne sont pas dans la même dynamique.
Exactement. Et on a des phénomènes qui sont propres à chaque secteur. Par exemple, l'absence de croissance du pétrole pendant une dizaine d'années a fait qu'on a très peu acheté de navires. Donc au moment où le prix du pétrole s'est effondré l'an dernier, on a une très forte demande de tous les acteurs du pétrole pour transporter, pour stocker, pour spéculer. Et là, on a vu un marché maritime très optimiste. Alors que de l'autre côté, l'effondrement ou la baisse très forte de la demande chinoise qui se produit de mois en mois est en train de contaminer un secteur des grands minéraliers qui était déjà mal en point. Et qui là est à la fois encombré par beaucoup de navires et d'un autre côté avec une demande qui peut se tasser.
Mais on va parler justement de la Chine. Tiens, direction un terminal de conteneurs en eau profonde situé dans la baie de Hangzhou, à plus de 27 km des côtes, qu'on atteint via un immense pont. C'est un terminal qui dépend du port de Shanghai, direction le port de Yangshan.
Le port de Yangshan est distant de la ville de Shanghai de 100 km. C'est le premier port artificiel du monde. Il a été ouvert au mois de décembre 2005. Le premier mois, nous avons pris en charge 30 000 containers. Au bout d'un an, 330 000 containers. Et enfin, en 2013, nous avons atteint 7,6 millions de containers. Ces chiffres prouvent un grand changement. Auparavant, nous étions pauvres, alors que maintenant, nous sommes riches. C'est ça le grand changement symbolisé par ce port. Dans 2 ou 3 ans, si nous parvenons à achever l'ensemble du port, Yangshan devrait pouvoir permettre la prise en charge de plus de 20 millions de containers. Ce chiffre prouve bien qu'une des devises du port de Yangshan est réelle. Un port numéro 1 pour le pays numéro 1.
Voilà, extrait de ce documentaire « Qui contrôle la mer » qui avait été diffusé sur Arte l'année dernière. L'ambition, on le voit, c'est de devenir à court terme le premier port mondial, dépassant le rival singapourien. Paul Touré, ces derniers mois, c'est vrai que l'économie mondiale s'est beaucoup inquiétée de la santé de la Chine, même s'il y a beaucoup d'incertitudes et de questions sur les chiffres. On voit bien que la tendance de l'économie chinoise est au ralentissement et que ce ralentissement est peut-être relativement durable. Alors, la question qui va nous intéresser, Paul Touré, c'est comment fait la Chine pour faire face à ce défi. Quand on regarde l'actualité, on voit qu'on a 3 entreprises chinoises, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, Costco, China Merchants Group et ICBC Financial Leasing, qui viennent de passer une commande sur une trentaine de navires géants. Ça leur a coûté quand même la bagatelle de 2,5 milliards de dollars. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on est en surcapacité. Comment comprendre cet investissement alors même que justement on est en surcapacité et que de surcroît, l'économie chinoise ne se porte pas très bien?
Alors, il faut revenir au problème qui est l'industrie maritime chinoise. En fait, la Chine est quand même constituée d'un drôle de monde économique, fait de grands conglomérats publics, devant affronter le marché global. Alors, ça marche bien quand on veut vendre un certain nombre de produits à bas coût ou plus technologiques dans les pays occidentaux ou dans les pays émergents. Quand on parle d'industrie maritime, ça a un petit peu pas mal de soucis. Le premier, d'abord, c'est que ces compagnies ont dû trouver du financement. Et le financement, elles l'ont fait en étant coté en bourse, notamment, ou dans les bourses chinoises ou à Hong Kong. Ce qui demande une certaine transparence financière qui commence déjà à être un peu contradictoire avec ces grands conglomérats publics. Et puis après, il y a l'aventure des marchés maritimes. Les marchés maritimes, ils ont aujourd'hui presque 3000 ans. Les Grecs et les Romains l'ont fait avant nous, les Phéniciens, et les Chinois le découvrent pratiquement en avant-dernier, si ce n'est en dernier. C'est-à-dire ce monde fait de libéralisme, d'accords qui doivent être tenus. Et tout ça, ça commence à poser quelques questions. Et la Chine est rentrée un peu en contradiction, en tout cas les armements chinois avec cette évolution-là, et d'où la reprise en main par Pékin qui a forcé les deux grands conglomérats maritimes de fusionner. Ce qui est un peu contradictoire quand on parle de première économie mondiale, quand on parle de grands opérateurs, obligés des armements qui sont censés quand même représenter une certaine diversité nationale, obligé de fusionner. Mais quand on sait que dans la construction navale ou dans l'acier, voire peut-être demain dans l'automobile chinois, il y aura les mêmes tendances, on voit bien qu'on est dans le même problème qui est celui finalement de cette économie à la fois dirigée et libérale qui doit trouver en elle des contradictions et essayer d'y répondre.
Mais est-ce qu'on peut dire, Paul Touré, que finalement les Chinois continuent de commander des navires pour, in fine, dans quelques années peut-être, avoir un contrôle assez fort sur les tarifs ? C'est ça le but.
En fait, les Chinois sont surtout forcés à suivre une course au gigantisme et à la capacité. En gros, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de darwinisme. On est dans une stratégie, notamment des grands acteurs européens, le danois Maersk, l'italo-suisse MSC et le français CMA-CGM, d'acquérir les plus gros navires, les plus grosses capacités, les plus gros services. De même qu'on voit les mêmes combats un petit peu dans le transport aérien international. Et là, les Chinois sont obligés de suivre le challenge.
Alors, et vous pensez que c'est une stratégie qui peut être efficace?
En tout cas, on pense souvent qu'on va vers une forme de ce qu'on appelle la consolidation. En tout cas, à la fin, il ne restera que quelques gros acteurs. En gros, le ticket d'accès étant tellement cher pour ces navires, et puis la capacité à les opérer, à vendre les services, étant tellement difficile qu'à la fin, il n'en restera que quelques-uns.
Ouais.
Et l'abandon de APL Nol par Singapour qui montre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement de Singapour a tout simplement jeté l'éponge et a dit le transport maritime conteneurisé, c'est aujourd'hui pas réalisable pour un petit État maritime, même s'il est très puissant dans son industrie, qu'est Singapour.
On va en parler dans un instant, mais il y a peut-être aussi un point qu'il faut préciser, c'est que les navires qui ont été commandés par ces entreprises chinoises sont des navires qui vont être construits en Chine, par la Chine, et ce qui va par ailleurs soutenir l'économie nationale. Ah, mais ce qui est pas une évidence, parce que traditionnellement, historiquement, c'est pas la Chine n'est pas un grand constructeur de navires. Il y avait d'autres acteurs qui étaient spécialisés dans ce domaine-là, et notamment la Corée du Sud. Donc on voit là aussi qu'il y a une stratégie qui vise à soutenir plus globalement l'économie nationale.
En train de soutenir un écosystème qui a ses fragilités, parce que encore une fois, les conglomérats chinois de la construction navale sont pas forcément en très bon état. Juste une anecdote, mais avec la baisse du yen ces dernières années et les armateurs sont revenus vers les constructeurs japonais pour acquérir à bas coût du Made in China, du Made in Japan, plutôt que du Made in China. Preuve que il y a un vrai problème aussi dans la construction navale, mais on rentre véritablement dans une interrogation plus générale sur ce qu'est le modèle chinois et comment il s'est défini et sa capacité à résister. Donc oui. Effectivement, des grands armateurs chinois qui construisent dans des grands fabricants chinois, c'est une tendance qui paraît naturelle.
Ce qui n'est pas sans conséquence sur les voisins et notamment sur la Corée du Sud. Vous avez vu il y a quelques jours, on apprenait que Hyundai Heavy Industries Company, qui est un constructeur naval sud-coréen, qui possède je crois les plus gros chantiers navals au monde, on a appris qu'il devait payer une taxe supplémentaire de 120 milliards de won, c'est-à-dire 100 millions de dollars. C'est une très mauvaise nouvelle qui intervient dans un contexte de crise avec des pertes très importantes, avec très peu de nouvelles commandes, justement pour la raison qu'on évoquait. On sent que ça va être compliqué pour la Corée du Sud hein, en termes de construction de navires.
Dans un marché global où il y a beaucoup de fournisseurs, tous les fournisseurs qui sont finalement en position dominante au moment des crises ont tendance à avoir des effets assez importants. Effectivement, la Corée qui s'était vraiment passée comme le grand fournisseur, notamment dans ces secteurs des grands porte-conteneurs, mais on peut le voir aussi dans d'autres sous-secteurs, par exemple dans le parapétrolier avec les plateformes offshore, a des grosses difficultés. Mmh. Et d'un côté, elle en a aussi beaucoup profité il y a quelques années, d'où la capacité de grands groupes industriels à pouvoir faire de la résistance sur la durée. Et on voit bien en Corée, ceux qui sont adossés aux plus grands chaebol ont plus de chances de s'en tirer que ceux qui sont plus fragiles, notamment hein, qui s'appellent STX par exemple.
Alors, l'actualité dans le fret maritime international, c'est notamment le français CMA-CGM qui va racheter son concurrent singapourien Neptune Orient Lines, le 12e, je disais, du secteur, pour 2,4 milliards de dollars. C'est une nouvelle entité qui constituera le troisième acteur du secteur, derrière le danois Maersk et l'helvético-italien MSC. On aura là 29 000 salariés, un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars. C'est un rachat qui illustre bien cette dynamique de concentration du marché qui est à l'œuvre ces dernières années. Je vous dis d'ailleurs que si le secteur avait connu il y a quelques années une forte tendance dans ses fusions-acquisitions, ça s'était un petit peu calmé, sauf que là, c'est à nouveau en train de repartir.
C'est vraiment un effet de la crise. En fait, ce que les armateurs n'avaient évidemment pas prévu, c'est l'effondrement de 2008, puis la crise européenne de 2011. Et puis depuis, on a aussi un élément qui est très très peu mis en avant, mais la chute de l'euro a fait que les Européens ont un pouvoir d'achat international qui s'est affaibli. Et du coup, on a eu moins de conteneurs l'an dernier sur le marché européen. Donc on a une vraie fragilisation, peut-être momentanée, mais de le secteur de la conteneurisation. Ce qui rend évidemment, comme il y a quelques années, une capacité à reprendre les plus faibles. Et là, on peut dire qu'il y a une très belle prise par CMA-CGM de APL Nol, qui a un bon savoir-faire dans sa région, qui est le bassin Pacifique, des positions aux États-Unis. C'est une belle prise qui doit être financée. Et donc, on a sans doute des grandes banques ou européennes, ou peut-être même des intérêts financiers de Singapour, qui ont accepté cela. Donc il y a aussi un pari des grands investisseurs, notamment des banques, à favoriser cette consolidation, donc favoriser ce grand resserrement du marché en pensant que quelques acteurs vont le dominer en quelques années. Sachant c'est un pari sur l'avenir.
Sachant que ce resserrement, il a aussi ses limites. Il y a eu certains projets de fusion qui ont été avortés. On peut par exemple évoquer le cas de l'alliance entre CMA-CGM, MESC et MSC, justement les trois principaux acteurs du transport maritime européen. Et cette alliance avait été bloquée.
Alors, cette alliance a été bloquée par Pékin, la trouvant un petit peu un excès de cartélisation.
Ce qui n'était pas l'avis de Bruxelles et Washington, d'ailleurs.
Alors, d'ailleurs, parce que Bruxelles a bien vu que la fusion des trois Européens embêtait plutôt le marché asiatique que le marché européen. Finalement, elle a joué ce qu'elle ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire en acceptant cette cartélisation, en tout cas en faveur des acteurs européens. Ce qui a créé un phénomène d'alliance qui s'est beaucoup concentré. Et là, avec les fusions-acquisitions à la fois des Chinois, et de CMA-CGM, les jeux d'alliance vont encore changer. Alors, les auditeurs sont peut-être plus habitués aux partenaires aériens, mais c'est quand même assez exceptionnel de voir comme ça, de regrouper les plus gros entre eux, et puis à l'intérieur des jeux de compagnie qui font que le transport maritime va sans doute, d'ici la fin de cette décennie, encore évoluer vers une consolidation dont j'avoue qu'on est encore du mal à savoir qui sera là. On sait qu'il y aura des Européens, des Japonais sans doute, des Chinois et puis quelques acteurs périphériques.
Par ailleurs, on n'est pas les seuls à suivre cette stratégie de fusion. En face, on a des Chinois qui aussi font la même chose. On a COSCO et China Shipping Group, les deux principaux spécialistes du transport de conteneurs, qui ont annoncé aussi leur prochaine fusion. D'ailleurs, certains experts, visiblement, considèrent que c'est une alliance fragile. C'est votre avis ?
C'est une alliance. C'est sans doute, je pensais longtemps qu'il valait mieux deux acteurs chinois, puisque le monde chinois commercial, tous les distributeurs, les importateurs, les exportateurs ont besoin d'une relative concurrence. Pékin a choisi, au contraire, de créer un acteur national très très fort. Contre les grands acteurs européens qui se sont alliés, c'est un peu la stratégie qui est en train de mettre en place. Sans doute, peut-être un excès de consolidation, mais encore une fois, peut-être que l'avenir va vers moins d'acteurs. Il sera d'ailleurs intéressant de suivre, je reviens au transport aérien, l'avenir des diverses compagnies chinoises qu'on retrouve aussi dans les alliances aériennes. Est-ce qu'à terme, les choses vont évoluer? Mais il faut avouer qu'avec 1,3 milliard de Chinois, il y a quand même beaucoup de capacité pour le transport aérien dans le monde, là où la conteneurisation 2, 3, 4% par an doit être bien légitime et peut apporter. Donc c'est parce que le marché est difficile que finalement il y a aussi beaucoup de regroupements.
Qu'est-ce qui vaut mieux, Paul Touret, en tant que crise ? Est-ce qu'il vaut mieux... Quel est finalement le profil de l'acteur du transport maritime qui va le mieux s'adapter à la crise ? Est-ce qu'il vaut mieux être dans un modèle privé quasiment familial comme CMA-CGM ? Ou est-ce qu'il vaut mieux être dans un modèle étatique ? Et on pense évidemment à la Chine.
Alors, vous savez que le transport maritime est un des plus vieux métiers au monde et il a été défini notamment sur l'armateur grec familial avec un équipage de proximité. On a connu ça pendant des décennies, même l'époque coloniale, même s'il y avait aussi les grandes compagnies. Aujourd'hui, il se trouve que le modèle familial, coté en bourse éventuellement, semble la meilleure voie pour le transport maritime. Parce que, bon, évidemment, c'est très dépendant d'un homme et de sa vision, mais quelque part, c'est un métier d'homme à l'échelle de financement qui deviennent colossales. C'est un peu un des paradoxes du transport maritime. Il y a beaucoup de secteurs où on parle de structuration du capital, de cotation en bourse, d'investisseurs. Là, le monde maritime fonctionne essentiellement avec des hommes. D'ailleurs, les fonds spéculatifs sont peu présents. C'est un des paradoxes de cette industrie-là, c'est d'avaler vraiment des quantités de dollars et de et de yens ou d'autres monnaies à des volumes très très importants, tout en les confiant finalement à l'expérience de quelques-uns.
Et c'est normal, c'est le principal moteur de la mondialisation, je le disais, donc normal que ça engrange évidemment quantité d'argent phénoménale.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Cette semaine, autour des mers et des océans, à la recherche de la puissance, aujourd'hui un cargo à la mer dominait le commerce mondial. On est avec Paul Touret, directeur de l'ICEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. On va prendre la direction de la Grèce.
Il s'agit en effet d'un modèle mondial qui essaye de s'imposer et qui concrètement tue les droits acquis des travailleurs. Et d'autre part, qui influe négativement sur le développement rationnel et le futur de tous les pays. C'est une catastrophe. Le port du Pirée est un des plus grands d'Europe du Sud. Il peut jouer un rôle stratégique et pour le développement et pour la restructuration industrielle de notre pays. Le vendre aux Chinois de Costco ou à n'importe quel autre groupe international va condamner la Grèce et son économie, et plus particulièrement le Pirée, à la décadence.
Voilà. Antonis Dalakayorgos, extrait toujours de ce documentaire qui contrôle la mer qui a été diffusé sur Arte l'année dernière. Les syndicats sont régulièrement inquiétés, mobilisés contre les effets de la mondialisation et les effets de l'arrivée d'acteurs chinois sur le port du Pirée. Aujourd'hui encore, ils sont encore très inquiets par la possibilité de voir le port passer dans les mains des Chinois. On va en parler. Aujourd'hui, les quais numéro 2 et 3 du port commercial d'Athènes débordent d'activité. La reprise du chinois Costco, qui en a désormais la concession, n'est pas étranger à ce regain. C'est en tout cas ce qu'on peut penser quand on voit que le quai numéro 1, lui, resté sous gestion grecque, se porte beaucoup moins bien, notamment, bien sûr, à cause de la concurrence des autres quais. On va retrouver un nouvel invité, Nikos Vernikos, bonjour.
Bonjour d'Athènes.
Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes effectivement à Athènes, vous êtes un armateur grec et puis le président de la Chambre de commerce internationale en Grèce. Alors l'Union européenne, Nikos Vernikos, avait eu raison de pousser les Grecs à confier la gestion de ces quais aux Chinois presque 8 ans après. Le bilan est plutôt positif.
Et je trouve que le bilan est sûrement positif, puisque le Pirée est devenu un des grands ports du monde, avec la plus grande croissance, et qui donne beaucoup de travail, non seulement aux travailleurs, à ceux qui travaillent dans le port du Pirée, mais à toute l'industrie qui a à faire les services en mer autour du Pirée.
Alors
oui. il y a pour l'instant que du positif.
Alors ça, c'est bien sûr la version de l'armateur grec, puisque le syndicat de Docker, lui, vous dira que ça a été une catastrophe sociale. Venons-en peut-être à l'actualité, Nikos Vernikos. L'agence grecque de privatisation a annoncé en janvier dernier avoir accepté l'offre déposée par Costco de 368,5 millions d'euros pour l'achat de 67% de la société du port du Pirée. On a 51% dans un premier temps et puis 16% dans les 5 prochaines années. Là aussi, cette privatisation a été d'une certaine manière imposée au gouvernement de Tsipras, qui n'y était pas favorable au départ, mais le troisième plan d'aide en réalité à la Grèce exigeait qu'on avance sur cette opération. Nikos Vernikos, c'est une bonne nouvelle du point de vue des armateurs grecs, et puis qu'est-ce que ça va changer concrètement?
Les armateurs grecs, c'est des chauffeurs de taxi de la mer, ou plutôt des chauffeurs de camionnettes, qui transportent n'importe quoi, n'importe où, pour n'importe qui. Ça ne va pas changer rien pour ces chauffeurs de la mer, parce que nous, on transporte les biens de l'humanité, les biens que 95% sont transportés par la mer, et ce n'est pas un port où on vient régulièrement, puisque la Grèce n'a pas de marchandises à importer ou à exporter. Alors ça ne va rien changer. Ça que ça va changer, c'est probablement pour l'économie grecque et pour toutes les industries qui ont affaire à offrir des services au port du Pirée. Je trouve que la Grèce, qui continue à avoir beaucoup de faiblesses et de défauts, doit faire des privatisations, parce que tout ce qui était géré par l'État n'est pas productif. Et aujourd'hui, on doit, pour survivre, on doit pouvoir vivre dans un environnement libre et juste, comme c'est le cas des armateurs grecs, pour développer. Et je crois que le port du Pirée va donner plus de travail aux Grecs et pas aux armateurs. Mmh. Je dis ça, c'est une grande différence. Il ne faut pas oublier que armateur, ce n'est pas le propriétaire de la navire, c'est celui-ci qui gère le bateau. Alors, au plus, je ne suis pas d'accord que ceux qui travaillent au Pirée ne sont pas contents. Aujourd'hui, que la Grèce a 25% de chômage et 50% aux jeunes, grâce au port du Pirée et à son développement, le chômage est moins fort à tous ceux qui travaillent autour du port du Pirée.
Vous pouvez ne pas être d'accord, Nikos Vernikos. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a beaucoup de syndicats de dockers qui considèrent que les conditions de travail sur les quais qui ont été repris par le chinois Costco, eh bien, sont très difficiles aujourd'hui.
Les conditions de travail, l'important, c'est qu'ils ont du travail.
J'entends bien.
Dans un pays où le 50% des jeunes est sans travail, le fait qu'ils ont du travail c'est déjà un cadeau de Dieu. Mmh. Et c'est grâce au développement. Moi, je vois pas. Je suis très sympathique à tous ceux qui, les syndicalistes qui font leur lutte pour leur bien, mais il faut dire que tous ceux qui travaillaient au port du Pirée pendant la période qu'il était géré par l'État, ils faisaient presque plus de pêche à la mer que du travail.
Mmh. Et puis il y a un mot peut-être que je voudrais ajouter avant de passer peut-être la parole à Paul Touret, c'est qu'on voit bien évidemment la stratégie des Chinois qui vise à faire d'Athènes ce grand centre de transit dans cette Asie du Sud-Est, dans ce Sud-Est européen, et de faire finalement ce pont entre l'Asie et l'Europe. Mais il y a aussi une nouveauté avec la privatisation de cette société du port du Pirée, parce qu'il y a un terminal avec une activité de passagers. Donc ça veut dire que la Chine veut là développer les capacités grecques en matière de croisière, peut-être, dont on sait que c'est un secteur en plein essor. C'est aussi ça, la nouveauté.
La nouveauté, c'est que le port autonome du Pirée va sortir du management de l'État pour aller au privé, que c'est les Chinois. Mmh. Malheureusement, la Grèce est un petit pays avec des faiblesses économiques actuellement. Et ce n'est pas à nous de décider si c'est bien pour l'Europe. Le grand problème, c'est pour l'Europe et les institutions européennes. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que nos partenaires dans les pays de l'Europe, ils sont d'accord avec l'expansion des Chinois dans l'infrastructure de l'Europe pour développer leur route de soie? Ça, c'est des grandes décisions. C'est pas les Grecs de trouver les réponses. Les Grecs, ils en profitent des investissements de tout étranger à ce moment de difficulté.
Mmh. Nikos Vernikos, vous...
Et j'attends des Européens de dire si c'est bien pour l'Europe que c'est les Chinois ou pas.
Mmh. Vous restez avec nous, Nikos Vernikos, parce que j'aurai encore des questions à vous poser, et notamment la question qui fâche, vous savez, celle de la fiscalité. Alors, ne raccrochez pas, restez encore quelques instants avec nous, mais je voudrais d'abord faire réagir Paul Touret. Peut-être, Paul Touret, sur la question de la stratégie chinoise en matière de transport maritime. On voit bien ce qu'essayent de faire les Chinois, c'est-à-dire s'implanter à l'extérieur de son territoire et s'implanter notamment en Europe, Paul Touret.
Là, il est indéniable que le monde maritime et d'une manière générale, le monde économique chinois tisse un système à l'échelle de la planète. Alors, est-il coordonné, est-il même cohérent du point de vue de ces industries? C'est pas toujours évident. On a parlé du collier de perles pendant plusieurs années, ce qui était tissé autour de l'Inde dans des positions de pays amis. On parle aujourd'hui de positions au Pirée. On a aussi parlé du canal interocéanique par le Nicaragua avec des intérêts de Hong Kong.
Vous trouvez que tout ça manque de cohérence?
J'ai peur que tout ça soit un peu du fantasme de spécialistes occidentaux. Il est sûr que la Chine investit. Alors, des fois, on trouve des sociétés d'ingénierie. Des fois, ce sont ces sociétés maritimes. Des fois, ce sont des acteurs publics. Est-ce que ça manque de cohérence ou ça en a? En tout cas, la Chine prend des positions à l'échelle de la planète. Est-ce que ça peut donner quelque chose dans la réalité? Il se trouve que beaucoup de pays ont besoin d'investissement. Les Chinois sont là, comme les Occidentaux. D'ailleurs, on peut le voir en Afrique de l'Ouest, où les positions portuaires occidentales et chinoises sont des fois concurrentes, des fois se rassemblent. Et puis, on parle de privatisation, on parle de la Chine, mais il faut se rappeler que CMA a signé un accord avec China Merchants l'année dernière pour lui vendre 50% de sa société de terminaux portuaires. Donc, même les Français sont capables de s'allier avec des Chinois, les Chinois prenant des positions à l'échelle de la planète. Tout ça ressemble plus finalement à du monopoly qu'à, en tout cas, de prise de position ici et là que d'une vraie stratégie. On n'est pas pour comparer avec d'autres jeux stratégiques, on est plutôt dans le monopoly, puis après on essaye de tirer les bénéfices de ces positions ici et là.
Allez, on retrouve Nikos Vernikos à Athènes. Donc la question qui fâche Nikos Vernikos, celle de la fiscalité. Les responsables européens, et notamment les Allemands, mais pas seulement, s'en sont régulièrement pris au statut particulièrement privilégié d'un certain nombre d'acteurs grecs. Je pense à l'Église et je pense aux armateurs, justement. Depuis les années 60, la constitution grecque prévoit un régime unique d'imposition avec une taxe sur le tonnage qui exclut l'impôt sur les sociétés. Donc la constitution protège les armateurs. En tout cas, elle empêche tout changement de régime fiscal, quel que soit le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Nikos Vernikos, de totalement déraisonnable à ne pas vouloir changer les choses alors que le monde change, d'autant que le pays est bien sûr dans une situation très difficile et que les armateurs pourraient contribuer à son redressement?
Essayons de comprendre la différence entre armateurs et propriétaires de bateaux. Les sociétés propriétaires de bateaux grecques qui ont des bateaux avec des pavillons grecs. Et même les sociétés de bateaux...
C'est-à-dire à peu près un quart de la flotte grecque, hein? Un quart de la flotte grecque.
Oui, oui, mais même ceux qui ont... Même les bateaux qui appartiennent à des Grecs, qui sont gérés par le Pirée, mais qui ont un drapeau étranger. La taxe de tonnage qu'ils payent est plus basse que la taxe est française et allemande. C'est parmi aujourd'hui, avec volonté, les propriétaires des sociétés maritimes ont doublé la taxe. Ils ont accepté de payer la taxe, même les bateaux avec des pavillons étrangers. Et aujourd'hui, le bateau grec, c'est le bateau qui paye le plus grand pourcentage de taxes ou les plus hautes taxes parmi tous les pays européens.
Mais il y a la taxe, Nikos Vernikos, mais il y a le problème des impôts sur le revenu, des impôts sur les bénéfices.
On revient maintenant sur l'impôt sur le revenu. On vient sur l'impôt sur le revenu. Les sociétés payent les plus grandes taxes. Et il ne faut pas oublier que les Grecs croient à la compétition juste et libre. On n'est pas subventionné, même pas un centime par l'État, comme c'est le cas en France, en Allemagne, dans tout le monde. C'est une activité qui se fait en dehors de la Grèce, qui n'a rien à faire avec la Grèce. Un bateau peut être construit en Chine avec un équipage, si on ne trouve pas des Grecs, Philippins, avec un affréteur américain, avec un receveur russe. Et c'est une affaire internationale. Malgré ça, le bateau grec paye plus grand de taxes. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe.
Oui, d'accord, mais Nikos Vernikos, toutes les sociétés grecques payent des impôts sur le revenu et sur les bénéfices. Pas les armateurs, c'est normal?
Mais les sociétés, c'est pas des sociétés grecques. Les sociétés qui sont propriétaires des bateaux, ce n'est pas des sociétés grecques. Parce que puisque le bateau grec est financé par le système bancaire international, aucune banque, aucun marché n'aurait pas voulu financer une société grecque, que c'est un pays où les lois fiscales changent 10 fois par an.
On a quand même 25% des navires qui sont immatriculés en Grèce.
Ils sont immatriculés en
Grèce. Et qui ne payent pas d'impôt sur le revenu et sur le bénéfice.
Oui, mais ils sont immatriculés en Grèce, ils suivent les lois grecques, mais ils sont immatriculés à l'étranger. Parce qu'aucune banque n'aurait pas voulu financer une société grecque où la loi change 10 fois par an. Ça, il faut être clair. La grande flotte hellénique, elle n'est pas financée par l'État grec, comme c'est le cas en France ou en Allemagne, où l'État subventionne. On est financé par les marchés internationaux, parce qu'on a prouvé qu'on croit à la compétition libre et juste, qu'on est contre toute forme de subvention. On croit que les subventions, c'est le cancer des sociétés. Et on n'a pas les mauvaises habitudes que les armateurs français ou d'autres pays qui avaient des colonies ont en France. Nous, on a eu jamais des colonies, on n'a eu jamais des grands cargos, et on dépend seulement de notre compétitivité.
Oui, en même temps, Nikos Vernikos, si on est tout à fait juste, d'une certaine manière, ce statut privilégié en termes de fiscalité pour les armateurs, il revient à un soutien de l'État. Vous n'allez pas être d'accord, mais d'une certaine manière...
Non, les armateurs grecs, moi je paye mes taxes en Grèce pour toutes mes signes extérieurs de richesse. Ça veut dire pour que tout ce que je dépose en Grèce pour vivre, mes voitures, mon yacht, mon avion, mes maisons de campagne, pour tout ça, je paye les taxes comme tous les Grecs.
Je voudrais faire intervenir Paul Touré.
Moi, je crois que toute cette histoire pour la Grèce, c'est une question de jalousie par nos autres partenaires européens qui ne peuvent pas comprendre comment est-ce que la petite Grèce, son cargo... aujourd'hui la plus grande flotte mondiale du monde.
Là vous êtes injuste, c'est que c'est pas peut-être que c'est de la jalousie des autres pays d'Europe, mais enfin c'est quand même un procès qu'on fait y compris à l'intérieur de l'Europe. Hein. Vous êtes régulièrement la cible du gouvernement de Tsipras, et donc là c'est une critique interne. Je voudrais entendre Paul Touré quand même, le directeur de l'ICEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Paul Touré, voilà, on nous dit le procès fait aux armateurs grecs est injuste.
En fait, c'est un vieil arbitrage qu'a fait la Grèce et qui a été exprimé dans les années 70 par un ministre grec. C'est dire en fait que l'économie maritime profite à l'économie grecque et non pas à l'État grec. C'est-à-dire que c'est le transport maritime, effectivement international, avec des financements internationaux aussi, finalement retombe sur l'économie grecque, notamment par les 60 000 emplois qu'il peut y avoir à Athènes et au Pirée. Alors c'est un arbitrage qu'a fait aussi la Norvège, qu'a fait la Grande-Bretagne, qu'a fait la France aussi d'une certaine manière. Et je crois qu'il faut quand même le dire, en défiscalisant pas, de toute façon, on fait aussi du subventionnement à l'envers. Donc la formule, c'est de dire que les États achètent leur compétitivité. Et la Grèce, en finalement, en ne voulant pas imposer ce secteur, lui a donné des capacités internationales. Alors on peut vanter les mérites du savoir-faire des armateurs grecs, on doit aussi vanter les mérites de l'État grec depuis les années 30 ou 50 d'avoir accompagné ce phénomène.
Les Grecs ont réuni les conditions pour que la Grèce, qui dispose quand même de la plus grande flotte du monde en termes de capacité de transport, eh bien, garde son rang. Finalement, il y a quelque chose aussi de naturel. On est dans la bataille de la mondialisation. En tout cas, un grand merci à Nikos Vernikos d'avoir été avec nous en direct d'Athènes, armateur grec, président de la Chambre de commerce international en Grèce. Je le remercie vivement d'avoir accepté de nous parler ce matin. On va s'intéresser à l'Inde dorénavant. On parle beaucoup des ambitions chinoises, on l'a évoqué avec vous, Paul Touré, en matière de commerce maritime, mais beaucoup moins de celles de son voisin chinois, c'est-à-dire l'Inde, dont on considère pourtant qu'il constituera l'un des principaux relais de la croissance pour les années à venir. C'est d'autant plus intéressant que l'Inde possède quand même un immense littoral. On a pratiquement 8000 km de côte. On va retrouver Salimane Ekrouf. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, merci. Chargé de recherche à l'université de Perpignan. En Inde, il y a deux types de ports, les majeurs ports, c'est-à-dire sous la responsabilité du ministère des Transports, et puis qui sont une petite quinzaine, et puis les minor ports, qui relèvent eux des États et qui sont un peu plus de 170. En août 2014, le premier ministre indien, Narendra Modi, avait inauguré le projet de modernisation du Jawaharlal Nehru Port Trust, qui est à l'ouest de Bombay, le premier port à conteneurs du pays, et il avait déclaré, en Inde, les ports seront bientôt la porte d'entrée de la prospérité. Donc très clairement, avec cette déclaration, Salimane Ekrouf, on voit que le développement socio-économique du pays, il passe par le développement de l'activité portuaire. C'est la stratégie, une stratégie parfaitement claire, parfaitement assumée.
Oui, exactement. Donc il se trouve que Narendra Modi était le chief minister de l'État du Gujarat entre 2001 et 2014. Et c'est dans cet État-là que l'on trouve le plus grand nombre de minor ports. Actuellement, c'est-à-dire qu'on en a à peu près 41 sur les 200, au compte à peu près le pays. On n'a pas exactement le chiffre du nombre de minor ports en Inde, mais c'est à peu près ça. Donc à peu près 200 et bon, une quarantaine pour le Gujarat.
Je voudrais comprendre une chose, Salimane Ekrouf. Ce port qui est le premier port du pays, quand on regarde le classement au niveau mondial, il est 58e. Pourquoi est-ce qu'il est si loin dans le classement? Qu'est-ce qui fait que les ports indiens accusent un tel retard?
Le port de Jawaharlal Nehru?
Oui.
Il est 30e.
30e, bon alors
j'ai... dans le classement, le dernier classement que j'ai, il est 30e, oui.
Mais on est quand même très loin finalement du potentiel économique de l'Inde.
Oui,
pourquoi ce
retard? On est très très loin parce que les ports n'ont pas été priorité du gouvernement indien au moment de l'indépendance. Le gouvernement s'est focalisé sur le secteur agricole. Il y a eu, on a délaissé complètement les ports. Et on s'est retrouvé au moment de l'ouverture économique, dans les années 90, devant une forte pression des institutions internationales, qui a fait qu'on a été obligé d'introduire la privatisation. Le gouvernement a fait le choix d'introduire la privatisation dans le secteur portuaire. Et on s'est retrouvé avec un système portuaire double. Donc il y a eu une réforme qui a été mise en place en 1996, où a été votée la policy guideline. Donc ça a été un tournant pour le secteur portuaire. Ça s'est présenté comme la structure légale des nouvelles orientations portuaires.
Et alors, dans la politique actuelle, qu'est-ce qu'on retrouve comme investisseur derrière cette modernisation? J'imagine l'État indien en partie, mais aussi des acteurs privés, du coup.
Oui, des acteurs privés. Alors, pour les acteurs privés étrangers, internationaux, on a le Danois APM, qui est présent dans le port de Jawaharlal Nehru, et puis le Major Port, également dans le Minor Port, le port de Pipavav, qui lui a la caractéristique d'être le port le plus privatisé de toute l'Inde. C'est un minor port. Il est coté en bourse depuis 2010. Là, on voit qu'il y a vraiment une démarche vers plus de libéralisme, quand on voit ça. On a ensuite l'acteur singapourien.
Et qui porte ses fruits, visiblement, puisque vous me dites que ces ports, ils sont relativement performants, ces ports secondaires, disons.
Ils sont vus comme des modèles pour les autres ports indiens. Et ensuite, on a PSA, le singapourien, qui est présent dans plusieurs ports, dans plusieurs major ports, à Tuticorin, Chennai, à Calcutta et à Kandla, dans aucun minor port par contre. Et on a également le port de l'opérateur de Dubaï, Dubai Port World, qui est présent à Cochin, Chennai et Visakhapatnam et JNP aussi. Donc JNP, dans le port de JNP, on a absolument tous ces opérateurs internationaux.
D'accord, donc on voit qu'en gros la stratégie, c'est privatiser globalement les ports indiens et voilà. C'est ce qui s'inscrit totalement dans la ligne politique libérale de Narendra Modi. Il n'y a pas grand-chose d'étonnant finalement. Paul Touré, réaction sur cette stratégie indienne en matière de commerce maritime. Paul Touré, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, on parle toujours de la Chine, jamais de l'Inde.
D'abord, l'Inde a quelques qualités. La première, c'est d'être d'abord autosuffisante en agroalimentaire, ce qui lui évite aussi des importations massives. C'est pareil pour le fer. Il y a du pétrole, il y a du charbon, il y a beaucoup d'importations. On connaît les fameuses pannes d'électricité en Inde qui obligent à une structuration très rapide du charbon. Par contre, sur les conteneurs, on est un peu dans un phénomène qu'on connaît bien. Il est rare qu'on trouve, à part sur du textile, du Made in India dans nos supermarchés. Donc, on sait que la puissance exportatrice de l'Inde est limitée parce que l'industrie manufacturière à vocation internationale l'est aussi. Et puis l'Inde se protège en marché intérieur et il y a moins de produits chinois. Tout ça faisant des volumes conteneurisés qui sont pas à la hauteur de ce que font un grand pays. Même, c'est pas qu'une question de développement, c'est aussi les caractéristiques de l'Inde. Et d'un autre côté, l'Inde cette année, c'est plus 7% de croissance. Donc il faut aussi relativiser. L'Inde, c'est peu sur le transport maritime, mais c'est une nation qui avance avec sa propre dynamique et finalement avec une assez peut-être d'isolement par rapport au reste pour pas forcément être contaminé par les petites et les grandes crises.
Vous parlez d'isolement, justement. Toute dernière question, Salimane Ekrouf. Moderniser les infrastructures portuaires, c'est une chose, mais faut-il encore qu'elles soient reliées à l'intérieur du pays si on veut pouvoir exporter des produits indiens ou même importer d'autres produits? C'est une dimension aussi du projet de développement du gouvernement de Narendra Modi, Salimane Ekrouf?
C'est ce qu'on appelle maintenant le quadrilatère doré. Donc, ce sont des grands axes autoroutiers qui relient les ports entre eux. Et aujourd'hui, la plupart des ports sont reliés à ce quadrilatère doré. Donc, on espère maintenant que les flux des marchandises va s'accélérer et que tout se fera de façon beaucoup plus positive.
Certains observateurs, Salimane Ekrouf, considèrent que assez vite, ce fameux port Jawaharlal Nehru Port pourrait devenir l'un des principaux ports du monde. Certains observateurs nous expliquent que dans quelques années, il sera dans le top 10, voire même, peut-être dans le top 20, mais peut-être même dans le top 10. Vous y croyez, vous?
C'est possible. Que maintenant, le gouvernement indien voit aussi au-delà de ses frontières nationales. En voulant investir dans d'autres ports de la région, comme dans le port iranien de Chabahar. Et on sollicite le port de Jawaharlal Nehru, investir dans ce port iranien.
D'accord, donc il y a une stratégie finalement là, parallèle à ce que fait la Chine, Paul Touré. Voilà. Vous y croyez, vous, Paul Touré?
Je réponds à la question auquel j'évoquais il y a quelques instants. Ça dépend véritablement de l'Inde, parce que le port que vous citez, en fait, le port de Bombay, la plus grande métropole de l'ouest de l'Inde, ça va dépendre de l'intégration de l'Inde dans la globalisation, qui, encore une fois, est un pied dedans, un pied dehors. Et pour être un grand port, il faut exporter des millions de produits manufacturés, et puis il faut aussi une population qui en consomme. Et il faut pas avoir des interdictions sur les jouets chinois, parce que vous privez peut-être à la taille de l'Inde de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de conteneurs. Et on pourrait sans doute aller citer cette liste encore plus longuement. Donc ça dépend véritablement des caractéristiques de l'économie indienne. Et c'est une économie qui, aujourd'hui, n'est pas totalement dans la globalisation.
Pas totalement, mais elle pourrait l'être demain. Et surtout, l'économie mondiale compte sur elle. Parce que vous le disiez, avec des taux de croissance aux alentours de 7%, tout le monde espère que l'Inde va devenir la locomotive de cette économie mondiale. En tout cas, un grand merci à vous, Salimane Ekrouf, d'avoir été avec nous. Je rappelle, géographe chargé de recherche à l'université de Perpignan.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had
Et puis surtout, un grand merci à vous, Paul Touré, de nous avoir accompagnés. Je rappelle, directeur de l'ICEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Je rappellerai que l'ICEMAR publie chaque année, avec l'hebdomadaire Le Marin, un ouvrage sur l'économie maritime, Enjeux maritimes 2016, mais aussi quantité de notes extrêmement intéressantes, extrêmement éclairantes pour les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct et en duplex depuis Nantes. Et merci d'ailleurs aux techniciens qui ont permis de faire ce duplex. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant, c'est La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.